Nous restâmes, le comte et moi, jusqu'à 2 heures du matin à nous promener le long des fossés de la Bastille, comme deux généraux qui, la veille d'une bataille, évaluent toutes les chances, examinent le terrain, et reconnaissent qu'au milieu de la lutte, la victoire dépend d'un hasard à saisir. Ces deux êtres, séparés violemment, allaient veiller tous deux, l'un dans l'espérance, l'autre dans l'angoisse d'une réunion. Les drames de la vie ne sont pas dans les circonstances, ils sont dans les sentiments. Ils se jouent dans le cœur, ou, si vous voulez, dans ce monde immense que nous devons nommer le monde spirituel. Octave et Honorine agissaient, vivaient uniquement dans ce monde des grands esprits. Je fus exact, à 10 heures du soir, pour la première fois, on m'admit dans une chambre charmante, blanche et bleue, dans le nid de cette colombe blessée. La comtesse me regarda, voulut me parler, et fut atterrée par mon air respectueux. « Madame la comtesse, lui dis-je en souriant avec gravité. » La pauvre femme qui s'était levée retomba sur son fauteuil et y resta plongée dans une attitude de douleur que j'aurais voulu voir saisie par un grand peintre. « Vous êtes, dis-je en continuant, la femme du plus noble et du plus considéré des hommes, d'un homme qu'on trouve grand, mais qu'il est bien plus envers vous qu'il ne l'est aux yeux de tous. Vous et lui, vous êtes deux grands caractères. Où croyez-vous être ici ?» lui demandai-je. « Chez moi ? » répondit-elle en ouvrant des yeux que l'étonnement rend fixe. Chez le comte Octave, répondis-je. Nous sommes joués. Monsieur le Normand, le greffier de la cour, n'est pas le vrai propriétaire, mais le prête-nom de votre mari. L'admirable tranquillité dont vous jouissez est l'ouvrage du comte. L'argent que vous gagnez vient du comte, dont la protection descend au plus menu détail de votre existence. Votre mari vous a sauvé aux yeux du monde. Il a donné des motifs plausibles à votre absence. Il espère ostensiblement ne pas vous avoir perdu dans le naufrage de la Cécile, vaisseau sur lequel vous vous êtes embarqué pour aller à la Havane, pour une succession à recueillir d'une vieille parente qui aurait pu vous oublier. Vous y êtes allé en compagnie de deux femmes de sa famille et d'un vieil intendant. Le comte dit avoir envoyé des agents sur les lieux et avoir reçu des lettres qui lui donne beaucoup d'espoir. Il prend pour vous cacher à tous les regards autant de précautions que vous en prenez vous-même. Enfin, il vous obéit. « Assez !» répondit-elle. « Je ne veux plus savoir qu'une seule chose. De qui tenez-vous ces détails ?»« Eh, mon Dieu, madame, mon oncle a placé chez le commissaire de police de ce quartier un jeune homme sans fortune en qualité de secrétaire. » Ce jeune homme m'a tout dit. Si vous quittiez ce pavillon ce soir, furtivement, votre mari saurait où vous iriez, et sa protection vous suivrait partout. Comment une femme d'esprit a-t-elle pu croire que des marchands pouvaient acheter des fleurs et des bonnets aussi chers qu'ils les vendent? Demandez 1000 écus d'un bouquet, vous les aurez. Jamais tendresse de mère ne fut plus ingénieuse que celle de votre mari. J'ai su par le concierge de votre maison que le comte vient souvent, derrière la haie, quand tout repose, voir la lumière de votre lampe de nuit. Votre grand châle de cachemire vaut 6 000 francs. Votre marchande à la toilette vous vend du vieux qui vient des meilleures fabriques. Enfin, vous réalisez ici Vénus dans les filets de Vulcain. Mais vous êtes emprisonné seul. Et par les inventions d'une générosité sublime, sublime depuis 7 ans et à toute heure. » La comtesse tremblait, comme tremble une hirondelle prise, et qui, dans la main où elle est, tend le cou, regarde autour d'elle d'un œil fauve. Elle était agitée par une convulsion nerveuse et m'examinait par un regard défiant. Ses yeux secs jetaient une lueur presque chaude. Mais elle était femme. Il y eut un moment où les larmes se firent jour, et elle pleura. Non pas qu'elle fût touchée. Elle pleura de son impuissance. Elle pleura de désespoir. Elle se croyait indépendante et libre. Le mariage pesait sur elle comme la prison sur le captif. « J'irai, » disait-elle à travers ses larmes. « Il m'y force. J'irai là où, certes, personne ne me suivra. » « Ah, » dis-je, « vous voulez vous tuer ? Tenez, madame, vous devez avoir des raisons bien puissantes pour ne pas vouloir revenir chez le comte Octave. »« Oh, certes !»« Eh bien, dites-les-moi, dites-les à mon oncle. Vous aurez en nous deux conseillers dévoués. Si mon oncle est prêtre dans un confessionnal, il ne l'est jamais dans un salon. Nous vous écouterons. Nous essaierons de trouver une solution au problème que vous poserez. » Et si vous êtes la dupe ou la victime de quelque malentendu, peut-être pourrons-nous le faire cesser. Votre âme me semble pure, mais si vous avez commis une faute, elle est bien expiée. Enfin, songez que vous avez en moi l'ami le plus sincère. Si vous voulez vous soustraire à la tyrannie du comte, je vous en donnerai les moyens. Il ne vous trouvera jamais. « Oh, il y a le couvent !» dit-elle. « Oui, mais le comte devenu ministre d'État, vous ferez refuser par tous les couvents du monde. Quoi qu'il soit bien puissant, je vous sauverai de lui. Mais quand vous m'aurez démontré que vous ne pouvez pas, que vous ne devez pas revenir à lui. Oh, ne croyez pas que vous fuiriez sa puissance pour tomber sous la mienne, » repris-je en recevant d'elle un regard horrible de défiance et plein de noblesse exagérée. Vous aurez la paix, la solitude et l'indépendance. Enfin, vous serez aussi libre et aussi respecté que si vous étiez une vieille fille laide et méchante. Je ne pourrais pas, moi-même, vous voir sans votre consentement. Et comment? Par quels moyens? Ceci, madame, est mon secret. Je ne vous trompe point, soyez-en certaine. Démontrez-moi que cette vie est la seule que vous puissiez mener. Qu'elle est préférable à celle de la comtesse Octave, riche, honorée, dans un des plus beaux hôtels de Paris, chérie de son mari, mère heureuse. Et je vous donne gain de cause. « Mais, dit-elle, est-ce jamais un homme qui me comprendra ?»« Non, répondis-je. Aussi ai-je appelé la religion pour nous juger. Le curé des Blancs-Manteaux est un saint de 75 ans. Mon oncle n'est pas le grand inquisiteur, il est Saint-Jean. Mais il se fera Fénélon pour vous, le Fénélon qui disait au duc de Bourgogne « Mangez un veau le vendredi, mais soyez chrétien, monseigneur. » Allez, monsieur, le couvent est ma dernière ressource et mon seul asile. Il n'y a que Dieu pour me comprendre. Aucun homme, fût-il Saint-Augustin, le plus tendre des pères de l'Église, ne pourrait entrer dans les scrupules de ma conscience, qui pour moi sont les cercles infranchissables de l'enfer de Dante. Un autre que mon mari, un autre, quelque indigne qu'il fût de cette offrande, a eu tout mon amour. Il ne l'a pas eu, car il ne l'a pas pris. Je le lui ai donné comme une mère donne à son enfant un jouet merveilleux que l'enfant brise. Il n'y avait pas deux amours pour moi. L'amour, pour certaines âmes, ne cessait pas, où il est, où il n'est pas. Quand il se montre, quand il se lève, il est tout entier. Eh bien, cette vie de 18 mois a été pour moi une vie de 18 ans. J'y ai mis toutes les facultés de mon être. Elles ne se sont pas appauvries par leur effusion. Elles se sont épuisées dans cette intimité trompeuse où moi seule étais franche. La coupe du bonheur n'est pas vide, monsieur. Elle est vidée. Rien ne peut plus la remplir, car elle est brisée. Je suis hors de combat. Je n'ai plus d'armes. Après m'être ainsi livrée tout entière, que suis-je? Le rebut d'une fête. On ne m'a donné qu'un nom, Honorine, comme je n'avais qu'un cœur. Mon mari a eu la jeune fille, un indigne amant a eu la femme. Il n'y a plus rien. Me laisser aimer. Voilà le grand mot que vous allez me dire. Oh, je suis encore quelque chose, et je me révolte à l'idée d'être une prostituée. Oui, j'ai vu clair à la lueur de l'incendie. Et, tenez, je concevrais de céder à l'amour d'un autre, mais à Octave, oh, jamais. Oh, vous l'aimez ? lui dis-je. Je l'estime, je le respecte, je le vénère. Il ne m'a pas fait le moindre mal. Il est bon, il est tendre, mais je ne puis plus aimer. D'ailleurs, dit-elle, ne parlons plus de ceci. La discussion amoindrit tout. Je vous exprimerai par écrit mes idées à ce sujet. Car en ce moment, elle m'étouffe. J'ai la fièvre. Je suis les pieds dans les cendres de mon paraclet. Tout ce que je vois, ces choses que je croyais conquises par mon travail, me rappellent maintenant tout ce que je voulais oublier. Ah, c'est à fuir d'ici, comme je me suis en allée de ma maison. Pour aller où ? Dis-je. Une femme peut-elle exister sans protecteur ? Est-ce à 30 ans, dans toute la gloire de la beauté, riche de force que vous ne soupçonnez pas, pleine de tendresse à donner, que vous irez vivre au désert où je puis vous cacher ? Soyez en paix. Le comte qui, en 5 ans, ne s'est pas fait apercevoir ici, n'y pénétrera jamais que de votre consentement. Vous avez sa sublime vie pendant 9 ans pour garantie de votre tranquillité. Vous pouvez donc délibérer en toute sécurité sur votre avenir avec mon oncle et moi. Mon oncle est aussi puissant qu'un ministre d'État. Calmez-vous donc, ne grossissez pas votre malheur. Un prêtre, dont la tête a blanchi dans l'exercice du sacerdoce, n'est pas un enfant. Vous serez comprise par celui à qui toutes les passions se sont confiées depuis 50 ans bientôt, et qui pèse dans ses mains le cœur si pesant des rois et des princes. S'il est sévère sous l'étole, mon oncle sera devant vos fleurs aussi doux qu'elles et indulgent comme son divin maître. Je quittai la comtesse à minuit, et la laissai calme en apparence, mais sombre, et dans des dispositions secrètes qu'aucune perspicacité ne pouvait deviner. Je trouvai le comte à quelques pas dans la rue Saint-Maur, car il avait quitté l'endroit convenu sur le boulevard, attiré vers moi par une force invincible. « Quelle nuit la pauvre enfant va passer !» s'écria-t-il quand j'eus fini de lui raconter la scène qui venait d'avoir lieu. « Si j'y allais, dit-il, si tout à coup elle me voyait. » « En ce moment, elle est femme à se jeter par la fenêtre, lui répondis-je. La comtesse est de ces Lucrèces qui ne survivent pas à un viol, même quand il vient d'un homme à qui elle se donnerait. « Vous êtes jeune, me répondit-il, vous ne savez pas que la volonté, dans une âme agitée par de si cruelles délibérations, est comme le flot d'un lac où se passe une tempête. Le vent change à toute minute, et le courant est tantôt à une rive, tantôt à une autre. Pendant cette nuit, il y a tout autant de chances pour qu'à ma vue Honorine se jette dans mes bras que pour l'avoir sautée par la fenêtre. « Et vous accepteriez cette alternative ? » lui dis-je. « Allons, me répondit-il, j'ai chez moi, pour pouvoir attendre jusqu'à demain soir, une dose d'opium que Desplats m'a préparée afin de me faire dormir sans danger. » Le lendemain, à midi, la Gobain m'apporta une lettre en me disant que la comtesse, épuisée de fatigue, s'était couchée à 6 heures et que grâce à un amandé préparé par le pharmacien, elle dormait. Voici cette lettre. J'en ai gardé une copie, car mademoiselle, dit le consul en s'adressant à Camille Maupin, vous connaissez les ressources de l'art, les ruses du style et les efforts de beaucoup d'écrivains qui ne manquent pas d'habileté dans leur composition. Mais vous reconnaîtrez que la littérature ne saurait trouver de tels écrits dans ses entrailles postiches. Il n'y a rien de terrible comme le vrai. Voilà ce qu'écrivit cette femme, ou plutôt cette douleur. Monsieur Maurice, je sais tout ce que votre oncle pourrait me dire. Il n'est pas plus instruit que ma conscience. La conscience est chez l'homme le truchement de Dieu. Je sais que si je ne me réconcilie pas avec Octave, je serai damné. Tel est l'arrêt de la loi religieuse. La loi civile m'ordonne l'obéissance quand même. Si mon mari ne me repousse pas, tout est dit. Le monde me tient pour pure, pour vertueuse, quoi que j'ai fait. Oui, le mariage a cela de sublime que la société ratifie le pardon du mari, mais elle a oublié qu'il faut que le pardon soit accepté, légalement, religieusement, mondainement. Je dois revenir à Octave. À ne nous en tenir qu'à la question humaine, n'y a-t-il pas quelque chose de cruel à lui refuser le bonheur, à le priver d'enfants, à effacer sa famille du livre d'or de la prairie? Mes douleurs, mes répugnances, mes sentiments, tout mon égoïsme, car je me sais égoïste, doit être immolé à la famille. Je serai mère, les caresses de mes enfants essuieront bien des pleurs. Je serai bien heureuse, je serai certainement honorée. Je passerai fière, opulente, dans un brillant équipage. J'aurai des gens, un hôtel, une maison. Je serai la reine d'autant de fêtes qu'il y a de semaines dans l'année. Le monde m'accueillera bien. Enfin, je ne remonterai pas dans le ciel du patriciat. Je n'en serai pas même descendue. Ainsi Dieu, la loi, la société, tout est d'accord. Contre quoi vous mutinez-vous? Me dit-on du haut du ciel, de la chair, du tribunal et du trône, dont l'auguste intervention serait au besoin invoquée par le comte. Votre oncle me parlera même au besoin d'une certaine grâce céleste qui m'inondera le cœur alors que j'éprouverai le plaisir d'avoir fait mon devoir. Dieu, la loi, le monde, Octave, veulent que je vive, n'est-ce pas? Eh bien, s'il n'y a pas d'autre difficulté, ma réponse tranche tout. Je ne vivrai pas. Je redeviendrai bien blanche, bien innocente, car je serai dans mon linceul, parée de la pâleur irréprochable de la mort. Il n'y a pas là le moindre entêtement de mule. Cet entêtement de mule dont vous m'avez accusé en riant est, chez la femme, l'effet d'une certitude, une vision de l'avenir. Et si mon mari, par amour, a la sublime générosité de tout oublier, je n'oublierai point, moi. L'oubli dépend-il de nous? Quand une veuve se marie, l'amour en fait une jeune fille, elle épouse un homme aimé. Mais je ne puis pas aimer le comte. Tout est là, voyez-vous. Chaque fois que mes yeux rencontreront les siens, j'y verrai toujours ma faute. Même quand les yeux de mon mari seront pleins d'amour. La grandeur de sa générosité m'attestera la grandeur de mon crime. Mes regards, toujours inquiets, liront toujours une sentence invisible. J'aurai dans le cœur des souvenirs confus qui se combattront. Jamais le mariage n'éveillera dans mon être les cruelles délices, le délire mortel de la passion. Je tuerai mon mari par ma froideur, par des comparaisons qui se devineront, quoique cachées au fond de ma conscience. Oh, le jour où, dans une ride du front, dans un regard attristé, dans un geste imperceptible, je saisirai quelque reproche involontaire, réprimé même, rien ne me retiendra. Je giserai, la tête fracassée sur un pavé, que je trouverai plus clément que mon mari. Ma susceptibilité fera peut-être les frais de cette horrible et douce mort. Je mourrai peut-être victime d'une impatience causée à Octave par une affaire, ou trompée par un injuste soupçon. Hélas ! Peut-être prendrai-je une preuve d'amour pour une preuve de mépris. Quel double supplice ! Octave doutera toujours de moi. Je douterai toujours de lui. Je lui opposerai, bien involontairement, un rival indigne de lui, un homme que je méprise, mais qui m'a fait connaître des voluptés gravées en traits de feu dont j'ai honte et dont je me souviens irrésistiblement. Est-ce assez vous ouvrir mon cœur? Personne, monsieur, ne peut me prouver que l'amour se recommence, car je ne puis et ne veux accepter l'amour de personne. Une jeune fille est comme une fleur qu'on accueillit. Mais la femme coupable est une fleur sur laquelle on a marché. Vous êtes fleuriste, vous devez savoir s'il est possible de redresser cette tige, de raviver ses couleurs flétries, de ramener la sève dans ces tubes si délicats et dont toute la puissance végétative vient de leur parfaite rectitude. Si quelque botaniste se livrait à cette opération, cet homme de génie effacerait-il les plis de la tunique froissée? Il referait une fleur, il serait Dieu, Dieu seul peut me refaire. Je bois la coupe amère des expiations, mais en la buvant, j'ai terriblement épelé cette sentence. Expier n'est pas effacé. Dans mon pavillon, seul, je mange un pain trempé de mes pleurs. Mais personne ne me voit le mangeant, ne me voit pleurant. Rentrer chez Octave, c'est renoncer aux larmes. Mes larmes l'offenseraient. Oh, monsieur, combien de vertus faut-il fouler aux pieds pour, non pas se donner, mais se rendre à un mari qu'on a trompé? Qui peut les compter? Dieu seul, car lui seul est le confident et le promoteur de ces horribles délicatesses qui doivent faire pâlir ses anges. Tenez, j'irai plus loin. Une femme a du courage devant un mari qui ne sait rien. Elle déploie alors dans ses hypocrisies une force sauvage. Elle trompe pour donner un double bonheur. Mais une mutuelle certitude n'est-elle pas avilissante? Moi, j'échangerai des humiliations contre des extases? Octave ne finirait-il point par trouver de la dépravation dans mes consentements? Le mariage est fondé sur l'estime, sur des sacrifices faits de part et d'autre. Mais ni Octave ni moi, nous ne pouvons nous estimer le lendemain de cette réunion. Il m'aura déshonoré par quelque amour de vieillard pour une courtisane. Et moi, j'aurai la honte perpétuelle d'être une chose au lieu d'être une dame. Je ne serai pas la vertu, je serai le plaisir dans sa maison. Voilà les fruits amers d'une faute. Je me suis fait un lit conjugal où je ne puis que me retourner sur des charbons. Un lit sans sommeil. Ici, j'ai des heures de tranquillité, des heures pendant lesquelles j'oublie. Mais dans mon hôtel, tout me rappellera la tâche qui déshonore ma robe d'épousée. Quand je souffre ici, je bénis mes souffrances, je dis à Dieu merci. Mais chez lui, je serai pleine d'effroi, goûtant des joies qui ne me seront pas dues. Tout ceci, monsieur, n'est pas du raisonnement. C'est le sentiment d'une âme bien vaste, car elle est creusée depuis 7 ans par la douleur. Enfin, dois-je vous faire cet épouvantable aveu? Je me sens toujours le sein mordu par un enfant conçu dans l'ivresse et la joie, dans la croyance au bonheur, par un enfant que j'ai nourri pendant 7 mois, de qui je serai grosse toute ma vie. Et si de nouveaux enfants puisent en moi leur nourriture, ils boiront des larmes qui, mêlées à mon lait, le feront aigrir. J'ai l'apparence de la légèreté. Je vous semble enfant. Oh oui, j'ai la mémoire de l'enfant, cette mémoire qui se retrouve aux abords de la tombe. Ainsi, vous le voyez, il n'est pas une situation dans cette belle vie où le monde et l'amour d'un mari veulent me ramener, qui ne soit fausse, qui ne me cache des pièges, qui ne m'ouvre des précipices, où je roule déchirée par des arêtes impitoyables. Voici 5 ans que je voyage dans les landes de mon avenir, sans y trouver une place commode à mon repentir, parce que mon âme est envahie par un vrai repentir. À tout ceci, la religion a ses réponses, et je les sais par cœur. Ces souffrances, ces difficultés sont ma punition, dit-elle. Et Dieu me donnera la force de les supporter. Ceci, monsieur, est une raison pour certaines âmes pieuses, douées d'une énergie qui me manque. Entre l'enfer, où Dieu ne m'empêchera pas de le bénir, et l'enfer qui m'attend chez le comte Octave, mon choix est fait. Un dernier mot. Mon mari serait encore choisi par moi si j'étais jeune fille et que j'use mon expérience actuelle. Mais là, précisément, est la raison de mon refus. Je ne veux pas rougir devant cet homme. Comment? Je serai toujours à genoux, il sera toujours debout. Et si nous changeons de posture, je le trouve méprisable. Je ne veux pas être mieux traité par lui à cause de ma faute. L'ange, qui oserait avoir certaines brutalités qu'on se permet de part et d'autre quand on est mutuellement irréprochable, cet ange n'est pas sur la terre, il est au ciel. Octave est plein de délicatesse, je le sais. Mais il n'y a pas dans cette âme, quelque grande qu'on la fasse, c'est une âme d'homme, de garantie pour la nouvelle existence que je mènerai chez lui. Venez donc me dire où je puis trouver cette solitude, cette paix, ce silence ami des malheurs irréparables et que vous m'avez promis.